Voici une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Qu'est-ce qui est réellement important? Pratiquer une religion ou avoir une relation personnelle avec Jésus? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, que vous soyez croyants ou non, j'aimerais vous encourager à bien écouter les réponses que la Bible va nous donner aujourd'hui, suite aux questions qu'on va lui poser. Je pourrais même vous dire que c'est une question de vie ou de mort. Alors voici nos questions. Est-ce que les croyants ont besoin les uns des autres? Qu'est-ce qui se produit quand on refuse d'écouter les conseils de ceux qui ont de la sagesse? Qu'est-ce qui se produit quand on acquiert la sagesse divine? Est-ce que Dieu oublie parfois ce qu'on fait pour lui? Est-ce que notre âme peut être comblée par la religion? Est-ce qu'on doit s'impliquer dans la vie de l'Église qu'on fréquente? Qu'est-ce qui se produit quand on n'accomplit pas un vœu qu'on a fait à Dieu? Qu'est-ce qui est réellement important? Pratiquer une religion ou avoir une relation personnelle et intime avec Dieu? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce que la parole de Dieu dit en réponse à toutes nos questions dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, merci de nous donner la grâce, le privilège de pouvoir apprendre ce qu'il faut pour acquérir de la sagesse, afin de mieux te connaître aussi, pour mieux te servir. Touche nos cœurs aujourd'hui par ta parole. Enseigne-nous. Permets pas qu'on oublie un seul mot de ce que tu vas nous enseigner. Aide-nous à vraiment l'appliquer dans chacune de nos vies. On t'aime, Seigneur, on veut te servir, on veut mieux te connaître. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons souligné le fait que le fatalisme ne comble pas notre âme. Si une personne croit qu'elle ne peut rien faire devant une situation, alors elle va faire des compromissions. Le fataliste ne croit pas à la miséricorde ni à la grâce de Dieu. Seule une relation personnelle intime avec Dieu peut combler un cœur dans lequel se trouve la pensée de l'éternité. Nous vous avons rappelé que le cœur de l'homme est méchant. L'homme naturel constate la méchanceté du cœur humain. Et Dieu a confirmé ce fait par plusieurs passages bibliques, entre autres celui de Romains 6, 23, où nous lisons « Tous ont péché ». Et celui de Matthieu chapitre 15, verset 19. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Nous avons vu que la théorie de l'évolution rabaisse l'homme au niveau des animaux. Puisque l'homme, naturel, croit qu'il n'est qu'une bête et qu'il n'a qu'une seule vie, il adopte un comportement égoïste afin de profiter de la vie tandis qu'elle passe. Nous avons montré que les animaux ont ce même type de comportement égoïste. Une philosophie de vie égoïste conduit aussi à une attitude pessimiste. Débutons notre lecture d'Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Nous pouvons obtenir davantage en nous alliant avec une autre personne qu'en faisant cavalier seul. Verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Les chrétiens doivent s'aider mutuellement. Salomon a découvert que même si l'on vit que pour soi, que pour ses propres intérêts, cela ne signifie pas que nous pouvons réussir sans aide. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous appuyer. Malheur à celui qui est seul et qui tombe, précise le texte. C'est pour cette raison que l'on nous recommande toujours d'être au moins deux si l'on part en excursion. Si un accident se produit, l'autre peut nous aider ou aller chercher du secours. C'est aussi pour cette raison qu'il n'est pas bon pour une personne âgée de demeurer seule. Si elle a un accident, ou si elle a un malaise quelconque et qu'elle ne peut se rendre au téléphone, cela peut prendre quelques jours avant qu'un parent ou un voisin se rende compte que quelque chose ne va pas. Il est donc préférable d'être deux. Cela s'applique aussi sur le plan spirituel. Parmi nos amis intimes, avons-nous des chrétiens mûrs qui peuvent nous aider à nous relever si nous tombons dans le péché ou si nous prenons une mauvaise voie? Êtes-vous un chrétien qui s'est éloigné de sa communauté chrétienne pour une raison quelconque? Demandez-vous si vous êtes dans les voies de Dieu. Et si vous êtes un chrétien ou une chrétienne depuis longtemps, qui encouragez-vous dans sa foi? Avez-vous des amis chrétiens que vous encouragez et qui vous encouragent? Ecclésiaste chapitre 4, verset 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Aidons-nous à éviter la tiédeur spirituelle. Ceci est vrai pour un couple, mais nous pouvons y faire une application spirituelle. Avez-vous un ami intime qui est un chrétien mûr afin que vous puissiez vous encourager mutuellement dans la foi, afin que vous ne deveniez pas froid spirituellement? Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. L'homme égoïste, qui ne pense qu'à lui, ne sera jamais comblé. Si votre travail vous donne satisfaction au début, vous finissez par le trouver lourd. Appuyé par des chrétiens, il est plus facile de résister au diable. Nous, les chrétiens, sommes attaqués par l'ennemi de notre âme. C'est pourquoi Dieu nous dit de prendre toutes les armes qu'il nous a fournies pour résister au diable. Nous trouvons la description de l'armure du chrétien dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Et ces versets nous exhortent à prier, à intercéder les uns pour les autres. Nous avons besoin de fréquenter une communauté chrétienne et d'avoir des amis chrétiens afin de pouvoir résister au diable. Si nous décidons de faire cavalier seul, nous devenons une proie beaucoup plus facile pour le diable, l'ennemi de nos âmes. Il arrive que le diable nous tende un piège, et que ce soit nos frères et nos sœurs dans la foi qui doivent nous avertir. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4, verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Sommes-nous ouverts à être enseignés? Salomon a été un enfant sage et un roi insensé. Une personne qui ne sait plus écouter les avis ou les conseils court à sa perte. Roboam, le fils de Salomon, est un excellent exemple. Il a refusé les conseils des anciens de son peuple, des hommes qui avaient conseillé son père. Et il se tourna vers des jeunes pour entendre ce qu'il désirait entendre. Il refusa d'accorder à son peuple un allègement fiscal, et son royaume a été divisé en deux à la suite d'une révolte. Roboam ne régna plus que sur les tribus de Juda et de Benjamin. Ecclésiaste 4, verset 14. Car il peut sortir de prison pour régner, et même être né pauvre dans son royaume. Dieu peut nous élever dans son royaume. Nous devrions nous intéresser à ce que font nos politiciens. Ils prennent des décisions et votent des lois qui touchent notre portefeuille et, plus grave encore, notre liberté religieuse. Le roi David est un exemple d'un jeune garçon qui gardait les troupeaux de son père. Il est devenu roi d'Israël après quelques années d'exil, car Saül voulait le faire périr. David avait la sagesse de Dieu, car il aimait Dieu. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur et que nous acquérons la sagesse divine, Dieu peut nous élever dans son royaume. Ecclésiaste 4, versets 15 et 16. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Notre Créateur n'oublie jamais ce que nous faisons pour lui. Si nous tirons notre gloire des hommes, elle sera de courte durée. Un roi a vieilli et on le délaisse pour courtiser son fils qui montera sur le trône. Le fils règne un certain nombre d'années et on courtise son propre fils. Nous notons cela dans notre propre système politique. De nombreuses personnes courtisent les candidats qui ont d'excellentes chances d'être élus à la tête du parti. Cependant, si le parti baisse en popularité, elle se tourne rapidement vers le meilleur candidat pour le remplacer. La gloire est souvent éphémère. Si quelques artistes demeurent au sommet longtemps, la plupart n'ont qu'une brève période de gloire. Lorsque j'étais adolescent, les groupes de musique étaient nombreux et populaires. Cependant, aujourd'hui, je serais en peine de nommer les musiciens qui formaient ces groupes, surtout ceux qui n'ont pas poursuivi leur carrière dans le domaine artistique. Pourriez-vous nommer des médaillés des Jeux olympiques des années 20? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10. Si vous voulez travailler pour quelqu'un qui ne sera pas injuste, travaillez à l'avancement du royaume de Dieu. Notre Créateur n'oublie jamais ce que nous faisons pour lui. Échangez votre religion pour Jésus-Christ. Maintenant, Salomon va chercher le contentement dans quelque chose qui pourrait vous intéresser, la religion. Cependant, son âme ne sera pas comblée par la religion. Ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner. Mais ne rejetez pas l'idée avant d'y réfléchir un peu. La religion a probablement damné plus de personnes que toute autre chose. Des peuples ont été gardés dans la pauvreté à cause de leur religion. Des pays se sont fait la guerre à cause de la religion. Des gens sont exploités par des sectes religieuses. Notez que derrière les guerres de religion se trouvent des batailles pour obtenir le pouvoir politique. Des personnes ambitieuses se servent de la religion pour s'accaparer du pouvoir politique. Cela est vrai de tous les grands mouvements religieux. Le libéralisme, qui imprègne les milieux catholiques et les milieux protestants, a entraîné la décadence morale des nations occidentales et de l'Amérique du Nord. Les gens rejettent maintenant la Bible, qui est la parole de Dieu. Ils ne croient plus qu'ils devront rendre des comptes à Dieu un jour. En fait, une forte proportion de la population se dit athée. Mes amis, je vous propose d'échanger votre religion contre Jésus-Christ. Le christianisme ne peut même pas être véritablement appelé une religion. Le Nouveau Testament ne donne pas d'instructions pour des rituels religieux. C'est pour cette raison que nous voyons tellement de différences dans les rituels des différentes religions. Par exemple, certaines religions prennent le repas du Seigneur toutes les semaines, d'autres une fois par mois, d'autres trois ou quatre fois par année. Certaines religions baptisent par aspersion, d'autres par infusion et d'autres par immersion. Pourquoi est-ce que le christianisme n'a jamais imposé une forme à suivre? En fait, le véritable christianisme est une personne, c'est Jésus-Christ. Nous avons un Dieu trinitaire, soit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu veut que nous l'aimions et il désire une relation personnelle avec nous. C'est cela la vraie religion. Les institutions religieuses sont inutiles sans relation intime avec Dieu qui désire notre cœur avant toute autre chose. C'est ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Écoutons ce que dit Salomon, Ecclésias, chapitre 5, verset 1. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Pourquoi fréquentez-vous l'église? Aller à certaines églises n'est pas seulement une perte de temps, mais c'est mal de le faire. Nous n'avons pas à approuver ou à appuyer des églises qui remplacent l'enseignement de la Bible par un enseignement libéral, par de l'enseignement psychologique ou par tout autre type d'enseignement. Allons-nous à l'église afin d'être nourris de la parole de Dieu? Allons-nous à l'église pour recevoir de l'enseignement d'un pasteur que Dieu a appelé au ministère et qui enseigne fidèlement la Bible? Dans ce verset, Salomon dit aux gens de fréquenter le temple, mais de ne pas s'impliquer et de ne prendre aucun engagement. C'est-à-dire, va à l'église le dimanche, écoute la prédication, mais ne t'implique pas dans la vie de l'église et ne prends aucun engagement envers Dieu. Ecclésias 5, verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Salomon avertit de ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Ne signe aucun engagement, ne fais aucune promesse. Si tu veux louer un appartement ou une maison, c'est bien de signer un bail et de t'engager. Cependant, ne prends aucun engagement avec Dieu. Autrement dit, pratique une religion, suis les rituels, mais assure-toi de ne jamais t'engager envers Dieu lui-même. Mes amis, Salomon n'est pas le seul à agir ainsi. Nos églises sont remplies de personnes malheureuses. Elles fréquentent l'église, suivent les rituels, mais ne s'impliquent jamais dans la vie de l'église. Dieu n'a que faire de nos rituels s'il n'a pas de place dans notre cœur. Mes amis, allez-vous à l'église pour vous rapprocher de Dieu? Y allez-vous par amour pour lui, afin de mettre les dons qu'il vous a donnés au service de vos frères et sœurs dans la foi? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Dieu n'a que faire de nos rituels s'il n'a pas de place dans notre cœur. Notre amour pour Dieu se voit à notre obéissance qui est faite de bon cœur et non par contrainte. Notre amour pour Dieu s'exprime par notre amour pour les frères. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean chapitre 4, verset 20. Retournons à l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Notre travail devient souvent le sujet de nos rêves le soir. Nous rêvons aux choses qui nous ont préoccupés pendant la journée. De même, la multitude des paroles d'une personne peut nous révéler qu'elle est un insensé. L'homme sage sait écouter et tenir sa langue. Ecclésias 5, verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Oui, chers amis, si vous faites un vœu à Dieu, il s'attend à ce que vous le respectiez. Si tu assistes à une réunion d'église et que l'on invite les gens qui veulent recevoir Jésus-Christ ou prendre un engagement, ne vous avancez pas à moins d'être sérieux et de vous rendre compte que vous prenez un engagement envers Dieu. De nombreuses personnes s'avancent pour recevoir le Seigneur comme Sauveur ou pour renouveler leur consécration, alors qu'elles ne font que suivre les autres en fait. Un ami me contait qu'il fréquentait une grosse église à Toronto. Un évangéliste est venu en ville et il a fait un appel, une invitation à s'approcher de Dieu. Une quarantaine de cartes signées par des personnes qui s'étaient avancées ont été livrées à l'église. car ces personnes demeuraient dans le même secteur. Un des pasteurs entreprit de visiter ces personnes. 38 n'ont pas voulu le recevoir, et les deux qui l'ont accueilli n'avaient pas compris l'appel. Ils étaient venus en avant parce que le prédicateur avait promis de prier pour eux. Chers amis, si vous faites un vœu à Dieu, il s'attend à ce que vous le respectiez. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Citation du Deutéronome 23, verset 21. Nous offensons Dieu lorsque nous faisons publiquement des promesses pieuses que nous ne tenons pas ou que nous n'avons pas l'intention de tenir. Des missionnaires, des pasteurs et des chrétiens ont été écartés du service de Dieu, de son œuvre, parce qu'ils ont fait des promesses à Dieu et qu'ils n'avaient pas l'intention de les tenir. Lorsque tu t'adresses à Dieu, tu ne participes pas à un rituel religieux. Tu parles à une personne qui t'entend et qui s'attend à ce que tu tiennes tes promesses. Revenons à l'Ecclésiaste, chapitre 5, versets 5 et 6. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux, que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Après avoir fait un vœu à Dieu, vous ne pouvez pas vous en libérer en déclarant « C'était une erreur. Je n'aurais pas dû faire ce vœu. Je n'avais pas l'intention de le faire. » Il semble que les gens ne se rendent pas compte qu'ils s'adressent à un Dieu vivant. Puisqu'il en est ainsi, ils ne s'engagent jamais sérieusement envers Dieu. Ils ne perçoivent pas que servir Dieu est une chose sérieuse. Dieu existe. Il est réel et vivant. Soyons prudents et sérieux lorsque nous l'approchons. J'aimerais vous poser une question. C'est à vous d'y répondre dans votre cœur. Pratiquez-vous une religion ou avez-vous une relation personnelle et intime avec Dieu? Jésus-Christ n'a jamais invité les gens à se joindre à une religion, mais à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur, rapportée par l'évangéliste Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Jésus a toujours invité les gens à venir à lui, car Dieu veut notre cœur avant toute chose. Lorsque nous lui donnons notre cœur, il le comble. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le psaume 37, verset 4. Si tu aimes Dieu, il se fera connaître à toi. Ce sont peut-être vos péchés qui vous séparent de Dieu présentement. Êtes-vous déjà venu à Jésus-Christ? Le premier pas consiste à le recevoir comme notre sauveur personnel. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Demandez à Jésus de venir dans votre cœur et vous serez pardonné gratuitement. En effet, il a donné sa vie en rançon pour ceux qui croiraient en lui. Il a payé pour les péchés de tous ceux qui viennent à lui. Jésus nous demande d'abord de venir à lui. Ensuite, nous choisissons une église pour y grandir spirituellement. Chers amis, préparons-nous en lisant et en méditant Ecclésiaste, chapitre 5, verset 7, à chapitre 6, le verset 12. Alors, à vous tous, bonne lecture et à la prochaine.
Merci beaucoup, Régent. J'aime particulièrement le verset que tu as cité dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 4. C'est le verset 9 qui dit que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et pourtant, je ne suis pas mariée, mais tu as mentionné qu'on pouvait obtenir davantage en nous alliant avec une autre personne qu'en faisant cavalier seul. Mes amis, Étant moi-même célibataire, je regarde cet enseignement et je peux vous affirmer que même si on est célibataire, on ne peut pas faire cavalier seul. Le Seigneur m'a donné de très bons amis, des croyants comme moi, qui m'aident et m'encouragent dans les ministères que le Seigneur m'a donnés. Par exemple, il y a mon pasteur, qui est aussi mon mentor. Il s'occupe de ma formation afin que je puisse être le plus efficace possible dans le travail que Dieu me confie. Il est beaucoup plus sage que moi et il m'aide à voir ce qui doit changer dans ma vie et ce que je dois améliorer avec l'aide de Dieu. Une autre de mes amies est une personne qui aime secourir. Dans le domaine de l'informatique, il m'arrive souvent de rencontrer des embûches. Alors je donne un petit coup de fil à cette amie et elle vient à mon secours afin que je ne perde pas de temps dans l'accomplissement de mon travail. En plus, elle est une personne remplie de compassion. Elle se réjouit avec moi quand je suis dans la joie et elle pleure avec moi quand j'ai du chagrin. Et une autre de mes amies est ma partenaire de prière. Le mercredi après-midi, on se rencontre pour prier ensemble et pour exposer à Dieu tous les besoins de mon ministère à la louange. Et on se réjouit ensemble dans l'exaucement à nos requêtes. Le Seigneur nous dit que lorsqu'on est deux ou trois pour demander une chose à Dieu, il nous l'accorde. C'est Jésus qui nous dit ça dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18, verset 19. Voici comment il nous l'exprime. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Mon frère, ma sœur, es-tu célibataire comme moi? Je sais pertinemment que lorsqu'on l'est, on peut avoir tendance à faire cavalier seul. Mais je t'encourage aujourd'hui à te faire de bons amis, des amis qui aiment le Seigneur, qui ont à cœur l'avancement de son règne. Et tu auras la joie de voir Dieu à l'œuvre encore plus dans ta vie. Aussi, quand on a de vrais amis, ils savent nous encourager. Ils nous le disent quand ils sont bénis par notre ministère, mais aussi, ils nous le disent quand ils pensent qu'on s'engage dans une mauvaise voie, dans tel ou tel domaine, ou même dans notre vie personnelle. Dans le 27e chapitre des Proverbes au verset 5, le Seigneur nous dit que mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Alors je rends grâce à Dieu de m'avoir donné de vrais amis, qui sont francs avec moi, qui savent me reprendre avec amour et douceur. Ensemble, on peut dire qu'on recherche les choses d'en haut, qu'on veut tout faire pour l'avancement du règne de notre grand Dieu glorieux. Ensemble, on se réjouit de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. Ensemble, on attend avec joie le jour glorieux où Jésus va venir chercher son Église et on sera enfin avec lui pour l'éternité. Oh, que Dieu soit loué pour cette éternité de bonheur qui nous attend dans le ciel.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.